Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.
Bienvenue dans l'émission Un pour tous, tous pour un, avec Anne-Marie Borne.
Bonjour amis auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Eugenio Romano. Eugenio, bonjour.
Bonjour Anne-Marie. Bonjour.
Avec vous, nous allons aborder la question et découvrir comment vous mettez en vie, en jeu, J-E et J-E-U, l'Église adventiste. Est-ce que vous pouvez déjà en deux mots vous présenter et ensuite nous dire un petit peu comment vous faites vivre l'Église adventiste?
Alors, je me présente en tant que personne, déjà, Eugenio Romano, donc j'ai 57 ans, je suis pasteur de l'Église adventiste depuis 1991, ça fait quand même beaucoup de temps. Oui, ça ne me rajeunit pas. D'accord, donc voilà, je suis d'origine italienne, donc je suis pasteur en France depuis 2006. Et désormais, vu que ma famille s'est bien installée, je pense finir en France. Donc voilà, j'ai ma nationalité française désormais.
Et nous sommes heureux de vous compter parmi nous.
Merci beaucoup.
Comment se passe l'Église adventiste? Vous me disiez que vous êtes pasteur sur trois sites en fait.
Oui, disons le site principal, c'est l'Église adventiste de Montpellier. Après, en cours de route, je me suis trouvé à devoir m'occuper aussi de la petite église qui s'est réunie dans la chapelle de notre maison de retraite, qui se trouve à Clapiers, donc le foyer du Romarin. Donc c'est une petite église qui a pour but d'accompagner ces personnes âgées qui ont tant donné à l'église et à la société, et donc de les accompagner dans ce dernier morceau de chemin qu'ils font avec nous. Et après, oui, j'ai le plaisir aussi de m'occuper de l'église de Béziers, qui est un peu plus loin, mais a besoin d'un pasteur aussi.
C'est normal. Et comment ces trois lieux résonnent peut-être de manière différente et complémentaire dans votre engagement de pasteur?
Oui, c'est clair. C'est trois communautés différentes, avec trois histoires différentes, avec des buts qui sont différents. Disons que dans une église comme Montpellier, qui est plus grossette, vous avez tout un travail à faire, surtout au niveau à tous les niveaux, mais aussi au niveau des plus jeunes. Donc on a beaucoup d'enfants, beaucoup de scouts, beaucoup de jeunes, des aînés, des étudiants qui viennent ici en métropole, un peu de partout, de la francophonie et même plus. Et donc il faut les accompagner parce qu'ils arrivent à l'aéroport et ils sont dans un autre continent, dans un autre univers, dans une autre galaxie, je dis parfois, parce que c'est une autre mentalité. Et donc là, voilà, c'est une vision qui est très claire. Et de l'autre côté, vous avez à l'autre extrême le foyer du Romarin qui est dire, on prend soin des gens jusqu'au bout. Et donc là aussi, c'est une manière de s'engager pour la vie jusqu'à la fin. Et c'est aussi pour nous une manière de dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont accompagnés jusqu'à là.
Sur Béziers, quel type de public avez-vous?
Alors, dans l'église, Béziers, c'est une église qui ne fait pas partie d'une grosse agglomération, comme c'est Montpellier. Donc, vous avez une réalité un peu différente, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les personnes âgées et de l'autre côté les très jeunes. Alors, aujourd'hui, on a quand même quelques familles jeunes qui s'installent, c'est ce public-là. Mais c'est souvent ce qu'on trouve en dehors des agglomérations. Hein. C'est la génération qui travaille, qui est obligée de déménager, d'aller dans des grosses agglomérations pour trouver de quoi travailler.
Et peut-être des logements moins chers aussi.
À Béziers, oui. Dans les grosses agglomérations,
c'est très cher.
C'est pas le cas. Donc, voilà. Mais Béziers, c'est une ville qui bouge, donc qui est en train de faire un parcours et elle est en devenir. Et c'est très agréable de la voir bouger.
Et on assiste quand même en France, ailleurs aussi, mais on va parler de la France, à un recul de beaucoup de gens par rapport aux religions, par rapport à une vie peut-être plus spirituelle, alors qu'on sait que nos contemporains ont des besoins spirituels aussi. Comment est-ce que vous, dans l'approche que vous avez au niveau de ces trois typologies de public un peu différenciées, vous mettez en œuvre cette possibilité de donner aux jeunes, aux familles et aux personnes âgées ce besoin de spiritualité en place? Comment vous le sentez? Comment vous le vivez? Au travers de quoi vous le mettez en œuvre?
Ben, c'est surtout le côté relationnel. Nous, on insiste dans notre petite fédération de France Sud, dont je fais partie, sur ce qui est le côté relationnel. Au centre de la vie spirituelle, de la vie d'une église, il doit y avoir la personne humaine. Si on perd de vue ça, on n'a plus de raison d'être. Et moi, je suis parmi ceux qui font un peu d'autocritique, dans le sens que je me dis souvent que si, à quelque part, aujourd'hui, dans notre société, on voit les religions et la religion chrétienne aussi comme un problème, peut-être qu'on a quelques responsabilités là-dedans. Donc, j'essaie d'aller au-delà du côté institutionnel, d'établir des parcours et même des projets qui permettent aux gens d'entrer en relation à n'importe quel âge. Ça peut être des rencontres en vidéo, des rencontres en présentiel, ça peut être des activités pour les jeunes, pour les scouts, ou je ne sais pas. Mais tout ça va dans le sens de remettre la personne au centre, de répondre à des besoins qui sont spirituels, parce qu'aujourd'hui, la société a un besoin de spiritualité très profond, simplement qu'en tant qu'institution, et je ne parle pas que de la mienne, on a plutôt du mal à intercepter ces besoins. Et donc les personnes, à mon avis, ne sont pas dans le rejet ni de la spiritualité, ni du fait religieux. Ils sont plutôt méfiants envers les institutions, et tout type d'institutions en réalité, hein. Donc il faut travailler sur cet aspect-là.
Et du coup, concrètement, comment ça se met en place? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple de vie, justement, puisque la personne humaine est remise au centre? Qu'est-ce que vous auriez comme exemple qui puisse éclairer un petit peu cet aspect relationnel qui, en effet, est capital?
Pour moi, changer la vision des personnes sur les institutions religieuses est fondamental. Donc, une première chose, c'est dire, je le dis à mes brebis, dire, nous, on n'est pas en compétition avec les autres, avec personne, chrétien ou pas. Nous, on est là pour une raison, parce que ça nous fait plaisir de rendre service. Et si on peut le rendre avec les autres, ça serait l'idéal. Donc, par exemple, on met en place des activités style avec notre association qui s'occupe d'intervention au niveau social, des collaborations ici, Babel Café, et j'ai une équipe de 15 personnes de mon église qui collaborent avec cette belle initiative qui vient un peu de l'église réformée. Et on sert un repas le dimanche matin, donc des petits déjeuners, souvent le seul repas de la journée pour des centaines de personnes. C'est quelques années que vous le faites. Nous, on a commencé plus tard avec vous. On aurait pu créer notre projet. Et je dis à mes frères, je dis, pourquoi? Il y a déjà quelque chose, on va donner un coup de main. Donc, c'est un petit exemple. La même chose, c'est de dire, ne restez pas enfermés chez vous. Tout ne doit pas se passer ni à l'église, ni dans les bâtiments de l'église. Ça peut se passer ailleurs. Et être ouvert aux relations avec les autres, en tant que personne, en tant qu'institution. Tout ce qui se passe de bien, nous, on peut collaborer, il n'y a pas de problème.
Alors, on sait qu'au niveau des jeunes, il y a un contexte assez anxiogène, il y a pas mal de choses qui sont un peu compliquées ou difficiles pour les jeunes. Comment vous mettez en place dans l'Église adventiste et vous en tant que pasteur des actions passant effectivement par le relationnel? Comment ça se crée? Comment les jeunes viennent dans l'Église? Quelles sont leurs demandes peut-être? Qu'est-ce qui...
Ça dépend de la tranche d'âge. Quand on parle de jeunes, on parle de quelle tranche d'âge? Si on parle des petits, les petits demandent de pouvoir vivre quelque chose ensemble, d'être accompagnés. Quand les enfants sont dans l'enfance, cette phase, voilà, ils demandent juste qu'on s'occupe d'eux. Et ils sont disponibles à faire ce qu'on leur propose. Donc voilà, nous on a des activités qui font partie... du culte, des fois, c'est-à-dire nos enfants sont engagés dans le culte. Il y a une partie qui est pour eux, et il y a les scouts, et donc toutes les activités qui vont avec, soit au niveau local, soit au niveau fédéral, c'est-à-dire que dans l'année, au-delà des activités d'une paroisse, il y a des activités dans des camps d'été, et dans des week-ends aussi. Donc, ils vont camper, ils vont faire des activités, ils vont se retrouver, ils vont connaître pas mal de monde qui vient d'autres villes, d'autres réalités. Donc, c'est une manière de pas seulement d'éduquer nos enfants dans la foi, mais aussi de les éduquer dans l'accueil de l'autre, dans ce relationnel-là. Pour les étudiants, pour les personnes, voilà, pour les jeunes plus adultes, comme j'ai dit, souvent le souci, c'est que nos jeunes arrivent, et pas que les nôtres, ils arrivent pour étudier en France la vie est chère, ils ont besoin d'être accueillis, d'être intégrés dans une réalité qu'ils ne connaissent pas, et ils ont parfois des besoins spirituels, oui, donc ils se retrouvent dans une famille qu'ils connaissent plus ou moins, mais ils ont parfois des besoins aussi très concrets, très matériels. Donc on a des petites initiatives qui peuvent les aider à surmonter des mauvaises passes, loin de leur famille, etc. Donc on aide de cette manière, avec beaucoup de discrétion, beaucoup de respect. Mais voilà, on fait ça aussi.
Quand vous dites qu'ils sont accueillis dans des familles, ça veut dire qu'il y a des familles un peu qui parrainent ces jeunes qui arrivent, c'est le système, quel est le...
Non, je dis que l'Église est un peu une famille.
D'accord, l'Église qui est la famille d'accueil.
On fait attention à leurs besoins. Donc, on a un système, entre guillemets, de service, de diaconat.
Très bien.
Pour lequel, voilà, si quelqu'un sait qu'il y a un besoin, très discrètement, il fait remonter la chose et on va s'en occuper. Et donc, l'idée, c'est de les accueillir dans un endroit... et dans un vécu dans lequel ils peuvent se sentir à l'aise, même à l'aise de demander une aide.
Bien sûr, bien sûr. Et puis d'avoir des lieux peut-être un peu spécifiques pour eux, parce que c'est difficile de peut-être les mélanger dans un premier temps, après ils s'ouvrent quand ça va mieux.
Mais on a la chance sur Montpellier d'avoir des locaux qui sont très convenables, donc il y a plusieurs propositions d'activités et la possibilité aussi pour eux de proposer des choses et donc de nous demander des locaux pour faire telle ou telle activité. Et ce n'est pas que pour les étudiants adventistes ou les jeunes adventistes. Il y a des fois des groupes, même ethniques, dont dans l'Église il y aura peut-être un ou deux ou trois représentants, qui nous demande de pouvoir utiliser les locaux pour se rencontrer. Trouver un local, c'est cher.
C'est sûr.
D'accord. Donc, une église, c'est un local qui nous... On n'a pas besoin de gagner de l'argent là-dessus. D'accord. Donc, on le prête bénévolement et ils peuvent se réunir et faire ce qu'ils ont envie de faire dans le respect du cadre de l'Église. Quoi.
Et c'est intéressant parce que vous leur offrez du coup un lieu où il y a un vivre ensemble qui est extrêmement important parce que du coup ils peuvent exister dans ce vivre ensemble, recevoir, donner et en même temps dans un cadre où il y a du respect à avoir pour les locaux, pour l'autre, etc.
Oui, l'idée c'est toujours que le relationnel nous permet de nous enrichir mutuellement. Donc, des fois, je suis italien à la base, Maintenant, je suis bien intégré en France. Ça fait 20 ans que je suis là. Mais des fois, je me retrouve à découvrir à l'intérieur de la culture française des niches culturelles dont je ne sais absolument rien. Si on a la possibilité de créer des moments de rencontre et de partage, on découvre, on en rit et on s'enrichit. Mais si on n'a pas ces moments de rencontre, on se prive de pas mal de choses.
C'est sûr. Je vous invite à une pause musicale. Nous allons écouter Le Printemps de Vivaldi.
Merci.
Nous retrouvons notre invité, le pasteur Eugenio Romano. Avec vous, nous venons de brosser un petit peu le secteur et les différents publics auxquels l'Église adventiste, dont vous êtes le pasteur sur le secteur de Montpellier, Béziers et Clapiers, s'organise. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire de manière un peu plus pratico-pratique où se trouvent vos locaux à Montpellier ? Où se trouvent vos locaux à Béziers, puisque nous avons entendu que pour Clapiers, c'est le foyer du Romarin.
Alors, pour Montpellier, c'est dans la rue Puechevilla, donc 668 rue Puechevilla, donc c'est du côté un peu de Grabel. Et pour Béziers, en réalité, on n'est pas à Béziers. On a commencé à Béziers et après, il y a quelques années, on a construit un local du côté de Villeneuve-le-Béziers, rue du Romarin, là aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a un signe là, mais bon, c'est...
Donc, vous faites des plats et vous mettez du romarin en plus pour parfumer.
Oui, c'est ça.
Au niveau de... Vous avez parlé tout à l'heure des différents publics auxquels l'Église adventiste s'adresse. Et notamment, vous avez parlé de l'éveil à la foi, de ce côté spirituel, parce qu'il y a une demande spirituelle de beaucoup de gens. Comment, concrètement parlant, cela se vit, ces rencontres autour de la foi, de la Bible peut-être, des cultes dont vous avez un peu parlé? Comment ça se vit tout ça?
Alors, on part du principe que, comme souvent arrive aujourd'hui, notre Église est une Église mondiale, Donc il y a cette notion et vision universaliste un peu de la foi chrétienne. Et donc, par conséquence, on a une identité multiculturelle, où on a un multiple nombre d'identités, si on veut. Et même au niveau local, aujourd'hui, nos églises accueillent des personnes qui viennent de différentes nationalités, et j'en suis un exemple. Donc, l'offre doit être par rapport aux besoins. Besoins culturels, besoins spirituels, bien entendu, et par rapport à l'âge aussi. Donc, on peut proposer bon, déjà un culte. Notre culte, c'est déjà en partie, ça correspond à l'ambition de répondre à ces besoins-là, parce que nous avons un culte intégré avec qui dure grosso modo 2 heures. Dans la première partie, on a des partages en groupe sur un thème qui est décidé à l'avance et par tranche d'âge. Mmh. Donc, les adultes avec les adultes, les jeunes aînés avec les jeunes aînés, et ainsi de suite jusqu'aux petits-enfants. Mmh. Et après, il y a une partie chant, louange, etc., donc, qui correspond aussi à des besoins. Et pour finir, il y a le moment d'écoute, qui est le moment de la prédication. Donc, c'est déjà ça, un indice qui nous dit on veut répondre à des besoins. Maintenant, le culte ne répond pas à tout. Donc, dans le reste de notre... Alors, nous, en tant qu'adventistes, on respecte le samedi. C'est notre jour de culte. Le samedi après-midi, il y a des multiples activités qui correspondent aux différents services que les gens veulent rendre selon leurs capacités, selon leurs besoins aussi. Donc, on a des rencontres de tout type. C'est-à-dire, il y a ceux qui s'intéressent plutôt au domaine de la santé, ceux qui s'intéressent plutôt au domaine de la jeunesse, ceux qui s'intéressent plutôt voilà, à différents types d'activités. Mm-hmm. Et à côté de ça, il y a des activités dans la semaine. Les activités dans la semaine peuvent être différentes et variées. Encore là, il y a des rencontres qui peuvent être des simples groupes d'amitié, relationnels, etc. Ou aussi des études bibliques sur, quand on le demande. Moi, je le fais plutôt pour les adultes, hein, tandis que ma collègue Clémentine Avelin le fait, s'occupe plutôt de la jeunesse. Mais ça correspond au type de besoin qu'il y a. Hein. Donc, il n'y a pas quelque chose de figé dans la pierre. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait en Italie, je ne l'ai pas fait en France. Ce que j'ai fait dans une église, je ne le fais pas ici à Montpellier. Ça dépend vraiment du besoin, de la demande. C'est le principe. C'est le principe.
Et ça, c'est important parce que ça permet peut-être aussi, pour nos auditeurs qui ne seraient pas chrétiens, d'entendre quelque part qu'il y a à la base de cet éveil à la foi, quand on parle dans la Bible, etc., du respect du besoin de l'autre, parce que c'est ça qui, à la base, est important aussi. C'est dans la religion chrétienne le respect de la dignité de l'autre. Et donc, du coup, la Bible n'est pas quelque chose qui est à imposer.
Non.
Mais c'est plutôt, ça peut faire partie d'un cheminement.
Ça fait partie d'un cheminement. Et surtout, c'est après à nous de montrer dans le concret combien parfois les valeurs bibliques sont intéressantes et répondent aussi à des besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui. Mais c'est clair que le respect de la personne par rapport à ses besoins, à son âge, à sa culture, à sa situation, est fondamental. C'est pour ça, par exemple, que nous aussi, nous sommes, depuis le début, intégrés dans ce projet qu'on a en centre-ville, qui est le chez Théo, notre café chrétien, dans lequel le respect est fondamental, sinon on ne peut pas avancer. Donc la personne vient pour prendre un café, non pas pour être endoctrinée. Si elle demande, on peut faire autre chose à un autre moment et peut-être dans un autre lieu. Mais la personne est accueillie dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle croyance elle se trouve, si elle en a, et si elle n'en a pas, elle n'en a pas. C'est pas ça qui nous pose problème. Et ça, ce n'est pas une... Ça ne doit pas être une stratégie, ça doit être une manière d'être.
Tout à fait.
Parce que si c'est une stratégie, ça peut vite aller dans la direction de la manipulation. Et ça ne nous plaît pas. C'est une manière d'être. Et j'encourage mes membres d'église, comme mes collègues protestants, évangéliques, etc., le font dans leur église, nous encourageons nos membres à vivre ce type d'attitude aussi dans leurs relations avec leurs copains, leurs amis, leurs voisins, leurs collègues de travail, et ainsi de suite. Donc, pas de stratégie, pas de manipulation, une simple manière d'être. S'il y a un besoin, une demande, on répond. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est tout.
Tout à fait. Mais la porte est ouverte s'il y en a un à un moment donné.
Bien sûr. Et pas seulement pas que la porte, aussi les fenêtres. Hein. Il n'y a pas de problème.
Quelle est la place des femmes dans l'Église adventiste, Eugenio ?
Alors, ça c'est un grand discours, parce que la réalité de notre Église, c'est une réalité où la femme est majoritaire. C'est-à-dire que nous avons 60% au niveau mondial de nos membres d'Église sont des femmes, apparemment.
Ah bon ?
Je ne le savais pas, je l'ai découvert. Hein? Après, nous avons un peu une origine un peu spéciale. Donc, en réalité, parmi nos pionniers, l'importance particulière retombe sur une femme. Donc, le grand boulot, c'est une femme qui l'a fait.
Hein?
Donc, c'est une de nos pionnières qui s'appelle Ellen White. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, sont des temps un peu complexes. On essaie aussi de faire un parcours pour valoriser de plus en plus les femmes. Personnellement, par exemple, dans notre église, ici à Montpellier, nous avons des responsables qui sont nommés pour des mandatures. Et les responsables principaux, c'est ceux qui font partie de l'équipe pastorale, donc les pasteurs, les anciens d'église. Et là, actuellement, on est 6 ou 7, il y a 4 ou 5 femmes. Donc, au moins 3 ou 4 anciens et une pasteur. Donc voilà, on essaye de valoriser la personne et l'approche féminine qui est une approche qui est riche, comme toutes les approches en réalité.
Et puis ça permet de montrer que sur le plan du ministère pastoral, cette complémentarité entre l'approche par un homme pasteur et par une femme pasteur peut élargir la base de l'accueil et de la proposition. Une prédication peut ne pas être tout à fait la même selon qu'elle est faite par un pasteur ou par un homme ou par un pasteur femme. Il peut y avoir des choses comme ça un petit peu... de l'ordre de la sensibilité aussi, et pour les paroissiens ou pour ceux qui aimeraient découvrir, ça peut être intéressant.
C'est pour ça que les portes sont grandes ouvertes, au moins ici sur Montpellier. Franchement, on a vraiment une ambiance très chouette sur ce point-là. D'ailleurs, même on a eu un culte, un de nos cultes pour l'Ascension qui est passé sur France 2. J'ai demandé à ma collègue qui était en stage encore d'assurer la prédication, parce que on voulait vraiment donner, j'avais envie de donner ce message d'ouverture et de respect de cette sensibilité qui est une belle sensibilité, qui s'apporte beaucoup. Après, je veux dire, si 60% de nos membres d'église sont femmes, il faut bien leur donner une visibilité quand même, non?
Toutes les religions n'ont pas cette honnêteté-là, donc merci aussi à vous de la dire et de la démontrer.
Et comme ça, on démonte aussi un autre mythe, c'est que les Italiens sont machos. Donc...
Voilà, c'est la CQFD. Nous approchons de la fin de cette émission, donc je tenais à remercier Yann qui est à la régie. Je remercie Eugenio Romano, pasteur à l'église adventiste et qui est venu nous éclairer un petit peu sur cette église qui, je le rappelle, fait partie de la Fédération protestante de France. Et il nous a décrit plutôt localement, sur Clapiers, Montpellier et à côté de Béziers, comment vous mettiez en œuvre votre engagement de pasteur. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, de ne pas hésiter à réagir à nos émissions en allant sur le site de la radio FM+, 91 MHz. À la prochaine fois.
Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.